Ribine. Le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros. Nos ribines, cette semaine, tissent les liens entre l'histoire religieuse et l'histoire politique et sociale. Bien sûr, on connaît partout en Bretagne ces saints locaux qui semblent appartenir au folklore, des noms étranges qui subsistent dans les lieux-dits ou les noms des bâtiments, surtout les chapelles et les fontaines. On ne sait pas trop quoi penser de ces personnages. Ont-ils vraiment existé? De quel obscur chemin du passé ont-ils surgi? Eh bien, ce type de questions, Yves Kefelec se les est posées. Ce nordiste, originaire de Plomodierne, continue à camper tous les étés sur nos côtes et il en profite pour faire partager ses découvertes d'historiens amateurs mais très aguerris. C'est la généalogie qui l'a conduit à l'histoire. Il a travaillé sur certains de ses ancêtres qu'il a découverts pilotes en Louisiane quand celle-ci était encore française. Puis il s'est intéressé à tous les habitants de Plomodierne au début du XXe siècle quand ses propres ancêtres ont migré vers le nord de la France pour trouver du travail. Pour commémorer cette migration, il a même fait sculpter Saint Mawarn, le patron de Plomodierne, à la vallée des Saints de Carnouët dans les Côtes d'Armor. Et bien sûr, Yves Kefelec a continué à tirer le fil de l'histoire de ce mystérieux Saint Mawarn, ce qui l'a fait remonter au premier millénaire, à peu près à l'époque de Charlemagne et même avant.
J'ai découvert Mawarn parce que, étant descendant d'une famille émigrée dans le nord de la France, j'ai voulu mettre en place une statue à la vallée des Saints en l'honneur de cette émigration de masse en 1903. Et l'idée qui nous est venue, à ma famille et moi-même, c'est de participer et de lancer un projet de statue à la Vallée des Saints. Et donc j'ai pris connaissance de Saint Mawarn par le biais de cette initiative.
Mais vous connaissiez, vous saviez quand même que c'était le saint local, quoi.
Oui, je sais que Mawarn est le saint patron de la commune de Plomodierne, de la paroisse de Plomodierne.
Et donc tout à coup vous êtes plongé dans l'histoire de Saint Mawarn. Et alors ça nous amène jusqu'à quelle période sur ce territoire du Porzay?
Bien, pour le territoire du Porzay est dénommé à l'époque des années 800, l'an 1000, le Pagus Minor Porzoète. C'est donc une organisation politique et militaire où la région de Bretagne, le duché de Bretagne et le royaume de Bretagne ont calqué leur organisation administrative sur le monde carolingien avec les mises en place de comtés. Le comté de Rennes, le comté de Nantes et le comté de Poher. Initialement, le Poher et Cornouailles ne faisaient qu'un. Et l'organisation inférieure, ce sont le Pagus Minor, c'est-à-dire une partie de ce comté. En ce qui concerne le comté de Cornouailles, on peut donc trouver dans l'histoire écrite le Pagus Minor Porzoète, comme il y a le Pagus du Cap Sizun, le Pagus du Cap Caval, etc.
Alors là, c'est l'organisation carolingienne, mais les populations, elles sont bretonnes, c'est ça plutôt de quelle origine?
Alors, les populations sont d'origine indigène, gallo-romaine pour une partie, c'est certain, et même avant, le néolithique, etc. Mais il est avéré qu'il y a eu des échanges très importants entre les îles britanniques et la presqu'île, la pointe de l'Armorique. Donc, on sait par l'histoire, par les écrits, qu'il y a eu des immigrations. Donc là, on pourrait citer plein d'historiens de l'époque du 19e siècle qui parlèrent des saints qui venaient avec leur peuple christianisé des régions comme l'Armorique. En fait, on s'aperçoit que même si l'histoire de cette époque écrite au 19e siècle a pu être rénovée en partie par les historiens d'aujourd'hui, il reste vrai néanmoins, et la génétique le prouve, par l'exemple d'une thèse écrite sur la mucoviscidose, qui a donc des spécificités. Il y a 12 variants sur la mucoviscidose qu'on retrouve aussi bien dans des pays comme les pays Bigoudin ou le Léon, avec les mêmes variants outre-Manche, en Irlande et au Pays de Galles. Donc il y a comme population une population trans-Manche, des personnes venues d'outre-Manche, de Galles ou d'Irlande, qui avaient l'habitude de travailler avec et d'échanger d'un point de vue commercial ou politique avec l'Armorique. Par contre, à partir de 410, date à laquelle les Romains retirèrent des légions dans les îles britanniques, les peuples celtes comme les Picts ou les les Scots, etc., ont agressé plus sévèrement les Bretons ainsi que les peuples germaniques comme les Saxons, les Angles, les Jutes, ce qui a poussé à accélérer ce processus d'émigration vers l'Armorique. On peut dire qu'en quelques décennies, au VIe siècle, les historiens contemporains qui parlaient jusqu'à présent d'Armorique ne parlèrent plus que de Bretagne, ce qui signifie que les Bretons, peut-être pas en masse, mais avec une population significative en termes de force ou de pouvoir, avaient pris le dessus, et que, aussi bien en ce qui concerne la langue que d'un point de vue administratif et l'organisation militaire, on avait pris le calque breton venant des îles britanniques dans cette région d'Armorique.
Et ces Bretons, ils avaient déjà une façon de pratiquer la religion qui leur était propre et aussi une organisation politique, militaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects ?
Eh bien, il y a eu à cette époque-là des migrations, une organisation politique qui était connue dans les îles britanniques et qui est une organisation qu'on pourrait dire pan-britannique, qui est soit contemporaine, soit antérieure à l'émigration dont nous venons de parler, qui est la fonction de chef local, qu'on connaît sous le terme de Tierne ou Tigernos, et une fonction qui est connue et avérée en Cornouailles ou en Galles, qui est le martierna, c'est-à-dire le Tierne, mar, le garant, Tierne, le chef. Donc c'est un chef qui a une autorité au-dessus des Tiernes et qui représente un pouvoir local prépondérant.
Nous y voilà, Tierne d'un côté et Plomodierne de l'autre.
L'étymologie de Plomodierne a été écrite par différentes personnes, donc Bernard Tanguy, qui est dans son dictionnaire des communes et des paroisses du Finistère. Il écrit que Plomodierne vient de Ploé Madierne. Les occurrences les plus anciennes sont de 1229 dans le cartulaire de Quimper.
Le cartulaire, c'est un recueil de copies de documents administratifs ou historiques ou juridiques que réalise une institution. Et ce recueil permet de consulter tous les documents plus facilement et de ne pas abîmer les originaux. Donc, le cartulaire de Quimper, c'était celui de l'évêché.
À l'époque, les premières occurrences sont écrites Ploé Ma Tierne. Donc Ploé, le peuple, la peuplade, le peuple. Ma Tierne, Tierne, c'est le chef dont nous venons de parler. Et ma est accepté sous différentes possibilités. D'un point de vue linguistique, les linguistes comme avec qui j'ai échangé, comme Francis Favreau et Luc-Jean Kergoat à Locronan, sont favorables à deux possibilités. La première possibilité pour le ma, c'est Mao, donc M-A-W, qui est l'homme dans le sens de la grandeur morale, ou aussi le serviteur dans le sens vassalique du terme, donc d'un bon niveau. Donc Mao peut évoluer en Ma. La deuxième possibilité, c'est justement cette fonction de garant dans Mar Tierne, c'est donc le M-A-C-H, Mar, qui devient progressivement Ma, M-A. Donc c'est une possibilité acceptable d'évolution normale dans le domaine de la linguistique. Une troisième possibilité, qui, elle, serait plus fautive d'après les linguistes, c'est Mar, qui se prononce en breton Mar, qui est M-A-R-C apostrophe H, qui est un cheval de combat, l'étalon, celui, le cheval qui n'est pas coupé, qui a encore toute son agressivité, et ce Ploé Mar Tierne est également possible, mais d'un point de vue linguistique, fautif. Mais les fautes sont classiques en linguistique. Et justement, Bernard Tanguy, dans ce même livre, pour la paroisse de Tréouergat, dans l'arrondissement de Quimper, en Léon, cite pour cette paroisse un Knech Mawarn, en 1432, qui est devenu, en 1520, donc moins de 100 ans plus tard, Knech était devenu Méné, et Mawarn est devenu Mahwarn. Donc il y a deux possibilités acceptables et une possibilité fautive.
Donc Plomodierne, ce serait en gros le village du chef, pour caricaturer, ce chef pourrait être Saint Mawarn. Et alors le Saint Mawarn, enfin la référence à un personnage religieux, ça apparaît aussi au XIIIe siècle ou c'est avant
Alors, Mawarn est également intéressant d'un point de vue linguistique, parce qu'on retrouve, c'est un nomen, donc le nomen, c'est-à-dire des, on pourrait dire aujourd'hui un prénom, mais c'est à l'époque on ne parlait pas comme ça, c'est un nom donné par une famille, un lignage à sa descendance, et les nomina étaient donnés dans des lignages et se répétaient dans les lignages. Donc on a, à cette époque-là, de l'époque de Budic, de son Alain Cagnard, enfin tous les comtes de Cornouailles.
XIIIe siècle?
Non, bien avant, c'est plutôt les années 1900, quoi. Donc on a ces nomina existent partout dans les cartulaires des abbayes, que ce soit Redon, Caperlé, Landévennec. Les mots Hoyarn, le fer, est un mot privilégié. On trouve dans les vicomtés du Fou, donc entre l'Aulne et les Lornes, dépendant du comte de Cornouailles, les nomina de Morvan et de Hewarn. Beau fer. On trouve également pas très loin d'ici, à Douarnenez, sur l'île Tristan, qui ne s'appelait pas l'île Tristan, puisqu'en 1118, l'évêque a donné cette île aux abbés de Marmoutier, près de Tours, et il a donné l'île de Tut-Huarn. Donc Tut, les gens, et Huarn, le fer à nouveau. Donc ce sont des nomina classiques à cette époque, révélateurs des lignages. Donc Mawarn est en effet un nomen caractéristique du dominus local qui pourrait très bien être le Martiern, voire quelqu'un d'important de ce lignage martiernal.
Et donc ça voudrait dire quoi, Mawarn ?
Alors Mawarn, également vu avec Francis Favreau et Lucian Kergoat, bien sûr on retrouve le deuxième terme qui est Hoyarn, le fer, et le premier terme qui est le Ma de Modiern, Plomodiern, Plomadiern, qui est soit Mao, l'homme avec une signification très valorisante, ou Mar, le garant dans l'organisation politique de l'époque.
Donc on ne sait pas si vraiment Saint Mawarn a existé en tant que personnage unique, mais en tout cas c'était une figure. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des cultes à Saint Mawarn avec, je ne sais pas, des statues ou autre chose ?
Alors, en ce qui concerne le déploiement du christianisme en Europe et plus précisément en Gaule, le christianisme, le catholicisme était à l'époque épiscopal, à l'époque de Rome, donc c'est-à-dire avant l'arrivée des Bretons, était encore exclusivement urbain et épiscopal, c'est-à-dire qu'il y avait des évêques qui étaient dans les grandes cités gauloises ou gallo-romaines. Ce culte étant urbain ne se répandait pas dans le monde rural, qui restait très généralement païen, avec des cultes un peu plus anciens, mais le même besoin de communiquer avec Dieu, par l'intermédiaire de ces saints, de ces hommes, on retrouve donc un besoin, et à l'époque, avant que le christianisme se développe dans les campagnes, on trouve des oratoires organisés par les dominants, par exemple par des tiernes dans le monde breton. Et donc les évêques ont commencé entre le 6e, probablement jusqu'au 9e siècle, et peut-être même un peu au-delà, vu les recherches actuelles archéologiques, les historiens actuels et archéologues actuels, probablement jusqu'au 9e siècle inclus, la création de paroisses, c'est-à-dire l'élévation par l'évêque de l'époque, qui lui était urbain, d'une organisation ecclésiastique rurale par le biais de paroisses qu'on appelle ici en Finistère des paroisses primitives. Et Plomodiern est une paroisse primitive pour le Porzay.
Donc à chaque paroisse primitive, son saint, en gros, enfin sa figure de saint, c'est ça ?
Oui, lorsqu'on élève au statut de paroisse, on nomme en général la paroisse du nom du saint qui évoque cette paroisse. Et donc, même si Plomodiern, la paroisse du Martiern ou du chef, est sous l'égide de Saint Mawarn.
Les lieux sacrés restent emblématiques au fil des siècles. Yves Kefelec a ainsi noté qu'ils concordent avec des croisements de voies romaines et des points de surveillance, des voies de communication.
Et alors ce Mawarn, il va quand même donc prendre corps, hein, c'est-à-dire devenir statue, devenir cloche, enfin devenir, quelles sont les traces qu'on trouve encore aujourd'hui de Mawarn ?
Mawarn va en effet se matérialiser, donc on sait retrouver, donc pour Plomodiern c'est évident puisque c'est le saint patron de la paroisse de Plomodiern. On y trouve l'église paroissiale, toujours dévoué à ce saint, qui fête son pardon tous les ans au troisième dimanche, en général le 21 septembre. Et donc, on a ailleurs plutôt des traces écrites qui sont avérées par les textes sur trois lieux différents. Alors, le premier lieu, c'est Holoch, qui est au nord de Castres, à la frontière de la commune de Castres, juste en aplomb de Châteaulin, sur le versant on connaît le Ménégildas ou le Ménékeller, sur laquelle passe une voie romaine. On a un lieu qui s'appelle le Loch, aujourd'hui, le Loch, mais d'après les historiens du 19e siècle, on sait qu'il s'appelait à l'époque Loch Mawarn. Il est avéré comme ermitage de Mawarn. On y trouve, il y a toujours un lavoir, il y a toujours une source, un parcours de dévotion qui existait encore jusque dans les années 50. La chapelle, elle, quant à elle, a été rasée. Par bonheur, la trace de cette destruction subsiste. Il est écrit que la toiture, les charpentes, la tour avec les cloches et la statuaire ont été transférées au bourg de Castres. On a également des baptêmes en 1650 et 1680 à peu près, 1675, le baptême de deux cloches dédiées à Saint Baptisé, donc au nom de Saint Mawarn. Maintenant, les autres villages, c'est le bourg au bourg de Plonévé-Porzé. À l'ouest de ce bourg, il y a un village qui s'appelle Lesvren. Et dans les monographies, on trouve, donc, à la place de la Beurrie-le-Gac, qui est sur le sommet de ce village, Lesvren-Huella, on a trace du placître de la chapelle Saint-Mawarn, qui, elle, a été renommée Hervé. Celle du Loch dont je parlais précédemment a été renommée Magloire. Et donc on trouve également une fontaine Saint-Mawarn. Il y a toujours de nos jours le calvaire Saint-Mawarn. Donc cette paroisse portait le culte de Mawarn. Aujourd'hui, la statuaire qui reste, c'est le groupe de Saint-Hervé qui a été transféré au XXe siècle sur le parvis de la chapelle de Sainte-Anne-la-Palute. On trouve également à Sainte-Anne-la-Palute un grand vitrail dédié à Saint-Mawarn. On a aussi des textes sur Lesvren où en 1510, un texte latin, on disait Capella Sancti Hervei, Vulgo Dictée Capella Sancti Mawarn, ce qui veut dire la chapelle à Lesvren, la chapelle Saint-Hervé, dite vulgairement, c'est-à-dire communément, Saint-Mawarn. Par contre, le vitrail de Sainte-Anne-la-Palute dit que, elle le dit à l'envers, il dit que c'est Mawarn que l'on appelle aussi Hervé. Et enfin, le dernier site, le quatrième site, c'est avéré, c'est au Juc. Alors au Juc, sur un promontoire, donc le village de Landanet, qui est à la limite aujourd'hui de la commune de Ploaré, sur une petite rivière qui s'appelle le Kerguinec, qui se jette dans le Névette, qui est la rivière frontière du Porzé aujourd'hui, on a sur ce promontoire une chapelle avérée, puisqu'on on y trouve encore des oboles, des dons faits par les paroissiens au tronc de la chapelle de Saint-Mawarn en 1761. Et on a également par la famille qui possède les terres et la ferme de Landanet de nos jours, la descendance Cloarec m'a confirmé que ses parents, sa grand-mère, jusqu'aux années 40, faisaient encore des parcours de dévotion depuis la chapelle qui a été rasée de nos jours jusqu'à cette source de Saint-Mawarn.
Donc Saint-Mawarn, c'est bien l'identité du Porzais, on peut le dire, et même si les traces commencent à s'estomper, vous aimeriez que justement Saint-Mawarn soit de nouveau connu des gens du coin, en fait, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez faire?
Eh bien, disons que la statue de la Vallée des Saints, au départ, était plutôt une initiative rappelant un fait historique, l'émigration de 1903. Mais j'ai pris petit à petit conscience, parce que j'ai dû écrire le texte qui est dans le guide de la Vallée des Saints, parce qu'eux ne savaient pas trouver quoi que ce soit sur Mawarn. C'est comme ça que la démarche a commencé. Et donc, j'ai abouti à un premier écrit sur Mawarn. Les données se sont un peu accumulées. J'ai fait l'année dernière une conférence à Plomodierne et à Castres pour expliquer l'histoire de Saint-Mawarn dans le Porzé. Et cette année, pour compléter la connaissance, nous avons créé un panneau d'intérêt culturel et touristique que les mairies ont eu la gentillesse d'afficher, de poster dans l'église à Castres et à Plomodierne et à Sainte-Anne-la-Palute, mais aussi sur le parvis des églises et également la fontaine Saint-Mawarn de Plomodierne. Donc il y a un premier temps de la prise de connaissance, ou plutôt de la réappropriation par la population de ce Samhain qui a volontairement été effacé de manière cultuelle ou à plan moderne comme à Lesvren en plein Évéporzé, on a souhaité qu'il s'appelât Saint-Hervé, et à Castres on souhaitait qu'il s'appelât Magloire. Or à 5 km de distance, ça n'est pas possible qu'un saint aussi sûr qu'Hervé puisse porter deux noms différents. Donc Mawarn est bien bel et bien Mawarn tel qu'il l'a été à l'origine, et ce culte aujourd'hui ne peut pas reprendre sous la forme de culte, mais on peut se réapproprier l'histoire de ce culte dans le Porzé. Donc mon objectif ensuite serait plutôt, je vais essayer de travailler sur une brochure bilingue, je ferai avec Joban Irian, et que je distribuerai aux communes pour que les gens puissent en prendre connaissance.
Vous proposez même un quiz pour les enfants, c'est ça?
Ah oui.
C'est... des actions culturelles, en tout cas.
Ah oui, ça, c'est d'autres choses. C'est-à-dire que sur les panneaux où chacun peut lire ce texte, près des monuments et des sites dévoués à Samhain, il y a en effet un petit code datamatrice qu'on appelle aujourd'hui un QR code et qui donne accès au site des mairies. Donc j'espère pouvoir mettre prochainement... Donc les mairies de Casse et de Plomodierne ont déjà fait le lien. Ils travaillent à créer un lien avec ce QR code et l'histoire de Samhain. Ça peut être un texte, donc ça peut être peut-être votre enregistrement radio, si votre radio évasion le permet, l'autorise, mais ça peut être aussi, j'ai vu les directeurs des écoles locales, je vais préparer des quiz pour les élèves, peut-être des petits parcours de sortie scolaire, et peut-être pour les adultes des parcours sportifs, de genre trail ou triathlon, des choses comme ça qu'on peut faire pour donner une cohérence à ce personnage.
Sur le site de Radio Évasion, vous pourrez aussi réécouter les autres interviews d'Yves Kefelec à propos de la statue de Samhain qu'il a fait sculpter pour la vallée des Saints de Carnouët, à propos de ses ancêtres qui ont migré dans le nord au début du XXe siècle, ou à propos de ses ancêtres américains.